Il s'agissait de la 9e journée annuelle d'Aliments du Québec. Le président du conseil d'administration d'Aliments du Québec, Johan Duroy, du conseil de développement bioalimentaire de la Naudière.
Cette 9e édition se tourne vers l'avenir. Nous avons choisi le thème « Être visionnaire aujourd'hui », c'est-à-dire comment aborder la nouvelle génération, avoir une attitude de leader, construire ou reconstruire sa marque pour perdurer dans le temps. Aliments du Québec prend également le train du changement. Depuis sa création, notre organisation a su rendre les Québécois attentifs à la provenance des produits bioalimentaires qu'ils consomment et surtout les convaincre de l'impact de leur choix sur l'économie d'ici. Depuis, nos logos Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons, sont devenus des repères incontournables pour les consommateurs. Afin de demeurer la référence pour ces consommateurs, mais aussi une valeur ajoutée pour la filière alimentaire québécoise, notre organisation a décidé de faire évoluer sa marque. Je suis enthousiaste de vous présenter le fruit de cette réflexion, de ce travail de plusieurs mois que j'ai pu voir évoluer et prendre tout son sens. J'espère que vous aussi, vous adhérez à notre nouvelle identité graphique, à ce nouveau logo, à votre nouveau logo.
L'image, le logo d'Aliments du Québec, depuis 20 ans, remplissait sa mission de bien identifier les produits. Mais modernisme et rajeunissement demandaient un nouveau logo. Pauline Fèvre, directrice communication et marketing à Aliments du Québec.
Si on regarde les atouts d'Aliments du Québec jusqu'à maintenant, évidemment, c'est la notoriété. Il y a eu un travail qui a été fait pendant une vingtaine d'années. La marque, le logo, ils sont connus et reconnus. Ce n'est pas quelque chose qui va être perdu avec un nouveau logo, c'est juste quelque chose qu'on va reconstruire et renforcer avec cette nouvelle image. Ensuite, on profitait évidemment d'un environnement favorable. Les gens veulent manger local, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à pousser et puis qui maintenant est vraiment dans la façon de consommer des gens. Ça fait partie des préoccupations des consommateurs des 5 grands critères d'achat. Donc le constat était bon. On était une marque phare et c'est à ce moment-là qu'il faut justement se rendre compte de ce qu'on peut faire pour garder cette position-là. Quand tout va bien, c'est le moment de vérifier qu'on a les bases pour aller plus loin. C'est pour ça qu'on a voulu faire évoluer les choses. On savait qu'il y avait des défis d'actualisation, d'utilisation. C'est aussi des choses, des problèmes qui nous sont revenus de votre côté. Le logo existait depuis 2002. Il pouvait paraître un peu désuet pour des consommateurs ou des producteurs qui devaient mettre le logo sur leur emballage. Il y avait d'autres logos de certification ou non qui utilisaient aussi certains symboles comme la fleur de lys. Ça pouvait faire concurrence à notre marque ou en tout cas troubler le consommateur. L'application sur les emballages était parfois difficile, de sa forme ovale, l'impression également. Donc vraiment, il fallait qu'on trouve une façon de moderniser ce logo et de répondre à ces problématiques. Et puis enfin, au-delà d'un logo seul, il nous fallait une plateforme de marque pour pouvoir parlez-vous.
Un logo est en fait pour beaucoup ce que ses concepteurs en disent. Dans le cas du nouveau sigle d'Aliments du Québec, il est ou il deviendra la base visuelle d'une série d'éléments de soutien à Aliments du Québec, en particulier une plateforme sur Internet où on souhaite raconter des histoires de produits, d'entreprises, de producteurs, de transformateurs. Les explications de Marc-André Fafard, vice-président design chez LG2.
Les gens sont friands d'histoire, on veut comprendre l'histoire derrière le produit. C'est dû à deux choses. Premièrement, la surabondance de l'offre. Il y a énormément de compétition sur les tablettes pour l'attention des gens. Et en même temps, vu la multiplication des plateformes pour vous de communiquer, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée pour pouvoir parler aux gens. On fait juste penser aux médias sociaux. Ça fait qu'il y a comme vraiment une recrudescence des histoires de marque. Pourquoi cette marque-là, elle existe? Qu'est-ce qui fait d'elle un succès? C'est quoi ses valeurs? En quoi elle croit? Bien, pour nous, c'est important de mettre ça de l'avant. Et ça faisait un lien aussi avec Aliments du Québec, qui était un regroupement de milliers d'adhérents qui ont chacun votre histoire propre. Donc, c'est important de mettre ça de l'avant. Vérité consommateur, de point de vue insight, l'humaniser l'alimentation. Pour nous, c'était vraiment important. Puis quand on y repense, la bouffe cuisinée, c'est pratiquement une des dernières choses qu'on fait avec nos mains. Dans une journée, là, pensez-y, là, on est derrière des écrans la plupart du temps, on va sous-traiter des choses, Mais la nourriture, faire à manger, reste quelque chose de très humain, où on entre en contact, où on va toucher les choses. Donc, il y a quelque chose de très humain à l'intérieur. Et jumelé avec le phénomène un peu de toute la méfiance alimentaire, avec les scandales qui viennent de l'extérieur, comme bien, c'est sorti aujourd'hui au niveau des poissons, l'identification des poissons, ça crée énormément de pression sur le consommateur à choisir. C'est quoi les claims qui sont bons, lesquels que je peux me fier? Donc, ça met un peu l'achat local comme un rempart pour les consommateurs de dire « Je vais me tourner vers l'achat local parce que je sais que c'est crédible et que ma méfiance ne sera pas sollicitée, si je peux dire. » Et étant donné la crédibilité d'Aliments du Québec, bien, le côté d'humaniser tout ça, de donner un peu ce côté-là émotionnel-là à la marque, c'était pour nous, c'était important. Et au niveau de la marque, en analysant ce qui faisait d'Aliments du Québec une marque qui était forte, bien, c'était tout le facteur de provenance. On voyait ce logo-là, on savait que ça venait du Québec. Mais c'est une marque qui était très rationnelle, donc qui n'était pas beaucoup dans l'émotion. Puis les marques fortes vont être capables de jumeler les deux, le côté rationnel et le côté émotionnel. Donc, de passer d'un symbole de provenance à un symbole de savoir-faire, pour nous, c'était le moins idéal d'un peu jouer sur ce côté rationnel et émotionnel-là en même temps. Et il y a une citation d'un des adhérents qu'on a rencontré qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille. Je vais la lire ici. « Aliments du Québec se doit d'incarner le dynamisme de notre industrie et de devenir la fenêtre du renouveau alimentaire québécois. Et ce dynamisme, c'est les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur qui l'incarnent le plus. » Que ce soit un grand transformateur qui vend des millions d'un point de vue du chiffre d'affaires ou l'artisan qui commence et qui emprunte des méthodes plus traditionnelles, l'humain en arrière, le savoir-faire en arrière de ce produit-là est mis de l'avant. Donc, on veut que Aliments du Québec soit ce symbole-là de savoir-faire pour les consommateurs. Lorsqu'on prend tout ça, ces trois ingrédients-là, qu'on mélange ça ensemble, on obtient un positionnement. Ce n'est pas un tagline, ce n'est pas une signature publicitaire. Voyez-le un peu comme un fil d'Ariane à l'interne pour l'équipe marketing, pour que tous les points de contact soient cohérents, qu'on raconte la même histoire, que ce soit à travers une publicité, un site web, un contenu, les médias sociaux, un concours, etc. Et pour Aliments du Québec, ce fil d'Ariane-là a été vraiment la plateforme d'histoire de savoir-faire à partager. Pourquoi une plateforme? Bien, sans les adhérents, Aliments du Québec, c'est pratiquement rien. Donc, on veut mettre de l'avant les adhérents le plus possible à travers la plateforme, de donner que ça devienne un peu une vitrine à chacun des histoires des entreprises d'ici, dans le secteur bio, agroalimentaire, et de partager justement ce savoir-faire-là qui est derrière. Donc, le savoir-faire amène aussi la notion de qualité, enlève la méfiance, peut partager le côté humain, donc le côté émotionnel vient là-dedans. Donc, ça a été vraiment un peu la thématique, l'alignement global d'un point de vue stratégique pour la suite des choses.
On veut par ailleurs continuer de développer la contribution des chefs sous le chapeau d'Aliments du Québec au menu. Un porte-parole de renom, Arnaud Marchand, donnant l'exemple de ce qui a été fait chez Boulet, dont il est copropriétaire.
Parce que c'est une histoire de gourmandise où on voulait éduquer les gens, en fait, sur les produits boréales. Qu'est-ce que c'était que le poivre des dunes? Qu'est-ce que c'était que la racine de céleri sauvage? Comment manger le pissenlit? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on voulait partager, en fait, avec les clients. Oui, on est sur le Rue Saint-Jean, il y a beaucoup de touristes, mais ceux qui ont le plus de surprises, c'est souvent les Québécois. Parce qu'ils ne connaissent pas l'huile de pépin de canneberge, parce qu'ils ne connaissent pas le vinaigre de cassis de l'île d'Orléans, parce qu'ils ne connaissent pas l'huile de canola biologique, parce qu'ils ne connaissent pas l'huile de tournesol. Donc, toutes ces choses-là, il y a eu de l'intérêt de la part des gens, et c'est ce qui a fait que chez Boulet s'est démarqué. On aurait pu tout simplement ouvrir un steakhouse. Un steak frites, là, sur la rue Saint-Jean, c'est sûr qu'on est complet tout le temps. Mais avec Jean-Luc, on voulait suivre une vision et on voulait rendre hommage à la province qui nous a accueillis, en fait. Jean-Luc depuis 40 ans et moi aujourd'hui depuis 10 ans. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'à travers ces produits qui étaient très identitaires, on a créé vraiment un lieu de rencontre, un lieu de discussion où aujourd'hui, on est capable de rencontrer les plus grands chefs au monde. J'ai l'opportunité, grâce à chez Boulet, de voyager un petit peu partout dans le monde. Je suis allé en Allemagne faire une démonstration culinaire sur les produits du Québec. Je m'en vais cet automne en Italie pour faire une démonstration encore une fois. L'année prochaine, c'est au Brésil. À travers tout ça, il y a un intérêt sur le terroir qui est très spécifique au climat boréal. Et c'est ce qu'on met de l'avant chez Boulet dans une cuisine simple, gourmande. Côté gourmand, Jean-Luc, on aime ça, le bon jus de viande, on aime ça le beurre, on aime ça la crème, mais un juste équilibre là-dedans et qui éduque les gens sans leur faire peur. Ça, c'était vraiment important. Et c'était l'enjeu qu'on avait au restaurant, c'est-à-dire que faire, je vous dis, un bouquet d'armoises fermentées, macérées avec un poulet chimichurri, on se perd. Mais nous, on fait une blanquette de veau de Charlevoix, assaisonnée au myrick baumier. Et que la personne, elle rentre, oh, une blanquette de veau, j'aime ça. Puis au lieu du riz, on va lui mettre de l'orge, ou de l'épeautre, ou de l'avoine dénudée de la Gaspésie. Et que là, OK, le veau vient d'ici, la blanquette de veau, ça me rassure, j'aime ça. Ah, avec l'épeautre, j'ai jamais goûté. Avec l'épeautre. Et ensuite, au lieu d'avoir mis le clou de girofle dans la blanquette, on va y aller avec le myrick baumier. Donc là, la personne a un intérêt, et puis en même temps, on l'éduque parce qu'elle goûte des autres épices qu'elle n'aurait pas goûté sinon. Et ça, ça a été vraiment, je pense, la racine et le fondement de chez Boulet, et qui en a fait ce qu'il en est aujourd'hui, une entreprise avec donc une centaine d'employés, avec des belles valeurs. Et puis, je parle de la valorisation de l'équipe parce qu'on a engagé une personne aux ressources humaines juste pour s'occuper vraiment de notre personnel. Et puis ça, c'est vraiment important, ça fait partie de mes valeurs parce que je ne serais pas là aujourd'hui pour l'expliquer s'il faudrait que je sois au fourneau pendant toute la journée.
Il y a plus de 20 000 produits identifiés Aliments du Québec sous différentes déclinaisons. Ces produits compétitionnent dans un marché effervescent, continuellement en changement, note le vice-président de la maison Nielsen. Monsieur Francis Parisien, plusieurs tendances, le marché continue à évoluer et il y a plusieurs phénomènes que vous notez chez Nielsen. Un, entre autres, c'est que les milléniaux semblent préférer davantage les marques privées, avoir davantage confiance aux marques privées.
Bien, en fait, c'est pas d'avoir plus confiance dans les marques privées, c'est juste qu'ils voient moins d'avantages d'acheter une marque nationale. Donc, ils comprennent l'équation de valeur qu'il y a derrière les marques privées. Donc, ne sont pas toujours prêts à payer plus pour acheter une marque nationale. Ce n'est pas une tendance qu'on voit seulement au Québec. On la voit au Canada, on la voit en Europe, on la voit aux États-Unis. Donc, c'est réellement, souvent en anglais, on dit « private label is back ». C'est vraiment ça, c'est une tendance qu'on voit de partout. Là.
Les marques privées, d'une part, mais aussi les petites marques qui font la croissance dans le marché.
En fait, oui. Les petites marques connaissent beaucoup de croissance. C'est fait, en fait eux qui mettent la croissance dans le marché. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de ces petites marques-là qui sont plus flexibles, qui innovent plus au niveau des tendances qu'on voit présentement. Bien, les protéines végétales, le bio, les produits équitables. Donc vraiment, les petites marques sont plus capables de répondre à ces besoins-là. Donc on voit de la croissance à ce niveau-là.
Mais ça, est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il va se passer des choses dans la grande industrie agroalimentaire parce qu'on ne peut pas laisser se dégrader des parts de marché comme ça, peu à peu, par les petites entreprises? Dans la grande industrie, on va vouloir garder et même récupérer des parts de marché.
Oui, c'est pour ça qu'on voit des grands groupes acheter des petites compagnies innovantes. Campbell's, c'est le meilleur exemple. Je pense qu'ils sont rendus à 4 ou 5 petites marques. Conagra fait la même chose. Donc, les grandes compagnies sont capables d'innover, mais quand ils voient là, qu'ils sont pas capables d'aller vers ces tendances-là, ils vont juste simplement acquérir une petite marque. On l'a déjà vu, on va commencer certainement à le voir au Canada éventuellement.
Aussi, on note un phénomène, et chez Nielsen, encore une fois, vous l'avez noté, la consommation est de plus en plus reliée à des causes. Les gens vont acheter des produits parce que, pour eux, ça vient appuyer des causes auxquelles ils sont favorables.
Oui, entièrement d'accord. L'industrie change pour ça. C'est pour ça que je mentionnais qu'il y avait de la croissance au niveau de certaines de ces tendances-là. Les consommateurs plus jeunes, les milléniaux, vont acheter avec leurs valeurs en tête. Ils sont prêts à payer même plus pour avoir un produit qui est local, qui va être équitable, et ainsi de suite. Donc oui, non, les données le confirment, là, qu'il y a cette recherche-là de causes environnementales, causes humaines, et ainsi de suite.
Et on peut entrer dans ça, le bio, les protéines végétales, par choix plutôt que les protéines animales?
Oui, ça, en fait, c'est récent. On ne l'avait pas vu au début. On voyait plus que les gens faisaient le choix de la protéine végétale pour leur santé. Mais là, on le voit qu'il commence à y avoir une influence. L'environnement commence à être une influence dans le choix des consommateurs.
Des surprises un peu aussi, parce que dans tout ce que vous observez, vous réussissez à avoir des surprises dans tout ça. Par exemple, le surgelé qui revient.
Oui, le surgelé, ça, c'est une belle surprise. En fait, les déjeuners surgelés, j'aurais jamais cru que cette catégorie-là pouvait revenir dans l'assiette des consommateurs. Mais oui, les surgelés connaissent une très bonne croissance. Mais ici, on est loin des surgelés d'il y a 10 ans. Là. C'est des surgelés qui sont meilleurs pour la santé, protéinés, moins de sodium, avec du bio, une facilité de préparation. Donc oui, à ce niveau-là, des catégories la protéine continue à amener beaucoup des décisions d'achat dans le marché. Donc, il y a cette recherche de facilité, mais également de répondre à certains besoins des consommateurs.
L'alcool, on parle beaucoup des milléniaux. Oui. On s'imagine que bien des gens sont des grands amateurs d'alcool, en parallèle à des phénomènes, la microdistillerie, la microbrasserie. Mais là aussi, vous notez des choses qui peuvent être un peu surprenantes.
Bon, en fait, c'est très surprenant. C'est très évident qu'il y a beaucoup de milléniaux qui prennent la décision de ne pas boire ou de boire beaucoup moins que les générations précédentes. Ça mène à certaines croissances comme le kombucha, comme la bière sans alcool. Il y a des brasseries présentement qui ont de la misère à fournir à la demande de bière sans alcool, autant ici qu'aux États-Unis. Donc, réellement, il y a un désir d'équilibre de santé des milléniaux qui vont mener à certaines décisions dans ça, comme l'alcool. Mais oui, vous pouvez voir, il y a certains bars qui ont de la difficulté, il y a des bars qui ferment, des emplacements qui ont toujours été là, qui ont de la difficulté à survivre là, dans cet environnement-là.
Et ce qui amène certains d'entre eux, peut-être pas tellement ici jusqu'à maintenant, mais en Europe, il y en a quelques-uns connus qui se tournent vers l'exclusivité de produits sans alcool.
Oui, totalement, parce que les gens ont toujours ce besoin-là quand même de sortir, mais ils ne voulaient pas se retrouver dans un environnement de consommation d'alcool. Donc oui, l'exemple de Sainsbury en Angleterre est assez flagrant. Là, qu'il y a ce besoin-là, puis eux ont très bien compris, ils ont répondu à la demande. C'est de la croissance.
Les emballages, contradiction dans ça, il y a beaucoup d'emballages extraordinaires parce que ça aussi, c'est une tendance. Les gens veulent des beaux produits qui se présentent bien.
Oui. En fait, ceux qui vont gagner dans l'industrie, ils vont connaître la plus de croissance, ça va être capable de manier les deux. Là. C'est d'offrir un emballage vert, mais qui est beau. Il y a toujours une recherche de design chez les milléniaux, mais on le voit au niveau de l'emballage. Mais là, je me sentais mal d'en parler pendant la présentation parce qu'on est au tout début de ces innovations-là, mais on le voit qu'il y a une recherche. L'exemple de l'Angleterre qui va bannir l'usage du plastique à usage unique à partir de 2025 nous force à nous réfléchir là, à ce genre de tendance-là. Là. C'est juste des bonnes nouvelles.
Puis justement, vous avez un peu conclu votre présentation en disant qu'on est au début d'un mouvement, là, de plusieurs nouvelles tendances.
Oui, mais c'est super intéressant parce qu'il y a de la croissance dans le marché. Pour quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres comme nous chez Nielsen, on le voit, là, il y a des changements de paradigme dans certaines catégories, dans la façon de faire les choses. Les 3-4 prochaines années vont être hyper intéressantes pour notre industrie. Il y a des belles opportunités pour les gens qui étaient ici aujourd'hui à la Journée Aliments du Québec.
Donc, il n'y a pas de quoi vous lasser des chiffres.
Non, c'est le contraire. On est en train de voir une nouvelle tendance que je n'avais jamais vue. Ça fait que donc, pour moi, moi, j'aime ça. Ça fait que c'est certain que ça va continuer à être intéressant.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Ici Lionel Levac. D'ici 2 ans, le logo Aliments du Québec avec la fleur de lys aura complètement disparu pour faire place exclusivement à la lettre Q, en jaune essentiellement, avec l'inscription Aliments du Québec ou Aliments préparés au Québec, en bleu. On pourra aussi retrouver cette lettre Q, dans certains cas, en noir ou en blanc, avec des inscriptions en blanc ou en noir. Il y a aussi le logo Aliments du Québec au menu, dans les restaurants où on aura adhéré à Aliments du Québec. Au revoir.